L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyper-proximité, en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région? Quelles transitions adressent-ils? Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires? Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Arnaud Bonnet, vous êtes cofondateur et directeur de Bretagne Tiers-lieu, une structure, alors j'utilise ce mot, vous allez préciser, qui existe depuis deux petites années, c'est ça ?
Voilà, c'est ça tout à fait. Bretagne Tiers-lieu, c'est un jeune réseau qui a été créé en février 2021 et qui a vocation à fédérer les tiers-lieux de Bretagne, qui sont eux-mêmes des objets nouveaux, émergents depuis une dizaine d'années. Et en 2020-2021, finalement, au moment du Covid, avec quelques acteurs tiers-lieux de la région, on est allé s'inspirer d'un autre réseau qui a été un peu plus ancien, en Nouvelle-Aquitaine, qui avait une dizaine d'années, la COP tiers-lieux. Et on est revenu avec l'idée de créer cette maison commune des tiers-lieux. Tiers-lieux qui, on pourra y revenir, adresse les transitions sociales, culturelles, écologiques, à travers des objets citoyens, c'est un peu ça leur originalité, et en se disant qu'il y avait un enjeu à favoriser l'interconnaissance de ce collectif-là, puisque partout, les tiers-lieux se développent, et peut-être à fortiori en Bretagne, ou en tout cas au moins autant en Bretagne, sans pour autant que ces lieux se connaissent, en tout cas en 2020. Donc maintenant, c'est œuvre faite avec le réseau, puisqu'on a organisé un certain nombre d'événements, de rencontres, à différents niveaux, régional, local, pour que ces acteurs se rencontrent et demain puissent s'entraider.
Est-ce que, pardon Arnaud de vous interrompre, est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a deux ans, ce lieu a émergé, alors que comme vous l'avez dit, dans d'autres régions, alors elles ne sont peut-être pas non plus très nombreuses, comment êtes-vous organisé ? C'est une association ? C'est quoi ?
Alors, le réseau est une association qui fédère aujourd'hui une soixantaine de membres tiers-lieux, et une centaine d'adhérents en tout peuvent aussi adhérer, des sympathisants, des porteurs de projets, des experts aussi qui gravitent autour des tiers-lieux. Et c'est une structure qui compte 4 salariés aujourd'hui. Et le déclic en 2020, ça correspond un peu à la période où les tiers-lieux ont pu s'illustrer durant la crise sanitaire. On pense notamment spontanément aux Fab Labs qui ont pu organiser des productions de tiers solidaires, alors même qu'on en manquait sur les territoires, ou un certain nombre de tiers-lieux nourriciers aussi ont pu s'organiser à ce moment-là. On pense notamment aux AMAP, aux groupements d'achat qui ont pu se créer. On en a quelques exemples en Bretagne dans le courant de l'année 2020. Et à ce moment-là, un peu avant finalement, initié un peu avant et puis très largement complété à la suite de cette crise-là, l'État s'est intéressé aux tiers-lieux avec la création d'un certain nombre de programmes de soutien pour les tiers-lieux. Et donc là, il y avait c'est un peu ce contexte-là qui a amené quelques-uns d'entre nous à l'époque à se dire qu'il y avait un intérêt à fédérer des tiers-lieux pour les organiser collectivement, leur rendre une capacité d'entraide et de parole commune, et en même temps une capacité à être l'interlocuteur, l'interlocutrice de l'État et des pouvoirs publics qui commençaient à s'y intéresser à ce moment-là.
Quels sont très concrètement maintenant les apports du réseau auprès de ces différents tiers-lieux ? Concrètement, comment agissez-vous ou interagissez-vous avec eux ?
On a trois fonctions dans le réseau qui servent directement et indirectement les tiers-lieux, mais en tout cas plusieurs parties prenantes des tiers-lieux. La première, c'est effectivement de structurer une communauté d'entraide, je le disais, entre ces professionnels, praticiens, facilitateurs, on aime dire, des tiers-lieux, qui sont effectivement des acteurs qui ont la particularité de prêcher ou d'avoir prêché un peu dans le désert sur leur territoire, qui peut ressentir un sentiment de solitude, paradoxalement, même si c'est un métier très social, évidemment, puisque au cœur de ce métier-là, il y a l'accueil d'un certain nombre de publics, de structurer, de favoriser des communautés professionnelles ou de citoyens. Mais il y a des enjeux spécifiques, finalement, de ressourcement pour ces communautés qui rencontrent des enjeux communs en termes de modèle économique, on y aura sûrement, de gouvernance ou encore de statut d'enjeux juridiques. La première fonction, c'est de structurer une communauté d'entraide entre pros des tiers-lieux. La deuxième, c'est d'organiser ce qu'on appelle une forme de tiers de confiance entre pouvoir public, je disais pour l'État, mais plus largement entre les collectivités, nous concernant en particulier l'échelon régional, mais aussi toutes les strates de l'action publique, et en particulier locale, intercommunale, de structurer un tiers de confiance entre ces collectivités et les tiers-lieux, notamment avec un vrai enjeu de sensibilisation des deux côtés, finalement, de créer, de dépasser les conflictualités potentielles, les incompréhensions potentielles qu'il peut y avoir entre ces deux mondes.
D'accord.
Pour créer du commun, sensibiliser, acculturer tant les tiers-lieux d'un côté aux spécificités et à la manière d'aborder l'action publique que l'action publique aux intérêts.
On a compris, vous êtes la burette d'huile, vous facilitez les choses, vous démythifiez, vous démystifiez peut-être aussi. Troisième point.
Troisième et dernier point, c'est tout simplement d'orienter et d'accompagner les porteurs de projets de tiers-lieux, quel que soit leur stade, qu'ils soient au stade de l'idée, de l'émergence ou du développement et de la consolidation, et donc de proposer un certain nombre d'outils, d'orientation d'offres d'accompagnement concrètement.
Alors, la fonction apprenante, je vais le dire comme ça, pour vous, elle occupe quelle énergie, quel temps au sein de votre association ?
Concrètement, on gère une formation pilotée en tiers-lieu qui s'adresse justement à des porteurs de projets avancés qui ont déjà une idée en collectif, voire un lieu. Donc on gère une formation qui accueille 8 à 9 stagiaires par an, qu'on comporte avec la coopérative tiers-lieux, celle-là même qui nous a inspirés il y a 3 ans. Et donc, voilà, cette formation dure 21 jours sur 9 mois, une sorte de formation-action assez concrète et opérationnelle. Et donc, concrètement, c'est ça le gros de l'activité de formation qu'on a aujourd'hui. Après, par ailleurs, on a un rôle d'accompagnement, d'outillage, de communauté, qui est donc à la frontière entre l'accompagnement et la formation. Donc, on met en place, à partir de l'année prochaine, des formations courtes, par exemple pour les adhérents sur des sujets particuliers comme les risques psychosociaux, le développement du mécénat pour aller chercher des fonds privés pour développer son projet. Et puis encore, on structure aussi des communautés infra, là aussi avec une forme d'apprentissage collectif. Je pense par exemple aux tiers-lieux apprenants, justement, qui eux développent des activités de formation avec le soutien de la région. Et nous, on accompagne à la fois la région pour promouvoir ce dispositif, mais aussi cette communauté de lauréats pour les outiller et favoriser... favoriser le développement de commun entre cette communauté-là pour convaincre demain d'autres pouvoirs publics et surtout d'autres tiers-lieux de s'engager dans cette voie et d'avoir les clés pour s'y engager avec succès.
Alors, quelle est votre économie ? Ma question est un peu brutale, mais elle est cruciale. Vous l'avez dit, l'État s'est intéressé au sujet. Vous fonctionnez comment ? Et comment allez-vous fonctionner dans les années à venir ? Est-ce que vous avez un peu de visibilité ?
C'est effectivement la question du moment, tant pour le mouvement en général que pour le réseau. Il y a eu effectivement un boom des tiers-lieux, en tout cas dans la prise en compte par l'État il y a 2 ans, avec des annonces au plus haut niveau de l'État par le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, à hauteur de 130 millions d'euros sur 3 ans, ce qui en faisait devenir une politique publique assez importante comparée à l'économie sociale, par exemple. Aujourd'hui, on est plutôt dans un moment d'incertitude. Les réseaux, notamment, se mobilisent sur cette question. Pour ce qui est du réseau Bretagne tiers-lieux, nous, aujourd'hui, on a un budget de l'ordre de 250 000 euros annuels. Sachant qu'il n'était que de 8 000 euros il y a 2 ans, donc ça a progressé assez vite. Pour 80% de ce budget, il est financé par des subventions, et pour moitié celle de l'État, de l'Agence Cohésion des Territoires, qui est aujourd'hui en questionnement et qui suscite la mobilisation des réseaux et plus largement de l'Association nationale des tiers-lieux. Mais cette subvention a permis de faire effet levier et d'embarquer d'autres financeurs depuis. Donc on a notamment maintenant la région Bretagne à nos côtés, notamment sur cette tiers-lieux apprenants, la Banque des Territoires aussi. Donc on a développé de nouveaux soutiens publics finalement autour du projet. Et puis on a 20% de notre budget qui est autour des adhésions, modestement, et plus largement des prestations. Je pense notamment à la formation pilotée en tiers-lieux que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce volet-là, effectivement, la stratégie du réseau, c'est de tendre vers le 50-50. On a notre modèle que j'évoquais tout à l'heure, la coopérative tiers-lieux, qui est à ce ratio 50-50 avec un budget d'un peu plus d'1 million d'euros. C'est ce vers quoi on va tendre, mais on compte beaucoup sur l'accompagnement en ingénierie auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès des collectivités territoriales qui ont des besoins d'accompagnement sur le sujet. Et voilà, on compte beaucoup sur ce sujet où il y a de la demande et où Bretagne tiers-lieux pourra se positionner avec un réseau d'experts, de pros des tiers-lieux, mais aussi d'experts autour du réseau pour répondre à ces besoins au fur et à mesure que l'expertise du réseau va progresser.
Bretagne tiers-lieux, vous l'avez dit, fédère, soutien, mais c'est aussi un magnifique poste d'observation. Alors, quelles sont les forces et les fragilités des tiers-lieux aujourd'hui en 3 phrases ?
2 forces, c'est leur ancrage c'est leur proximité, ce sont des lieux qui sont identifiés, visibles et qui mobilisent des citoyens localement. Deuxième force, c'est leur diversité, leur capacité à faire rêver aussi, c'est un peu ça, leur modèle social, leur modèle économique, c'est leur capacité à produire du rêve social et écologique pour les habitants et pour les communautés. Deux faiblesses, ou en tout cas deux enjeux sur lesquels on continue de travailler avec le mouvement, c'est leur lisibilité, leur crédibilité, j'évoquais tout à l'heure, leur perception par les acteurs publics, c'est encore un sujet sur lequel on doit travailler pour continuer d'arrimer de nouveaux soutiens et plus largement acteurs, compréhension des acteurs publics et des pouvoirs publics sur le sujet. Et enfin, leur durabilité, puisque ce sont évidemment des modèles sociaux et écologiques intéressants, mais qui sauront convaincre que dans la durée. Et donc là, on a un vrai sujet pour arriver à faire tourner des équilibres, des modèles économiques qui soient durables et qui soient hybrides, compréhensibles par tous, en mobilisant à la fois l'activité lucrative, des prestations, des recettes, et aussi des subventions publiques qui financent nos activités d'intérêt général et de transition écologique.
Ce que vous venez de dire là, en gros, c'est la recette, peut-être, pour durer, pour que ces différentes structures, coopératives, associations et autres, puissent s'inscrire dans le temps.
Voilà, absolument. L'enjeu demain, ce sera de, et notamment pour le réseau, on a deux sujets là-dessus, c'est de contribuer à la diversification des activités économiques des tiers-lieux, donc d'encourager, de tester des formations qui peuvent être plus lucratives pour équilibrer des modèles d'intérêt général et des modèles qui ont une activité économique, donc pour encourager et accompagner les tiers-lieux à développer ces activités. Ça peut être le cas de la formation, par exemple, puisqu'effectivement les lieux sont des lieux apprenants. Et le deuxième enjeu, c'est d'anticiper et d'accompagner les tiers-lieux qui peuvent connaître des coups durs en trésorerie ou en exploitation. Et donc voilà, là, il y a tout un enjeu d'accompagnement, de prévention, d'anticipation pour gérer les crises et être capable d'aller vers des périodes plus fastes.
Donc diversification, formation pouvant être un levier, on est d'accord. Je vous remercie Arnaud Bonnet. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur depuis 2 ans environ maintenant de Bretagne Tiers-Lieux. Merci pour ces clarifications. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.